Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 11 mars 2021. Je suis toujours accompagnée de Laurent et nous sommes toujours en direct. Ce soir, nous allons vous parler de plein de petits trucs. Et oui, parce que nous, on vous parle de trucs, mais un truc important quand même. Nous irons du côté de Fukushima avec Laurent. Nous parlerons un petit peu de spectacle et culture. Je vous parlerai un petit peu des occupations qui se développent un peu de partout sur ce territoire. Nous parlerons un petit peu d'autres choses sur le spectacle de l'Opéra de Lyon. Nous parlerons d'une triste nouvelle avec Laurent, un petit peu encore d'art contemporain et de crypto-art précisément. Mais tout de suite, Laurent, si tu veux bien, bienvenue à toi, nous parler de Fukushima.
Bah oui, forcément, aujourd'hui nous sommes le 11 mars. Et le 11 mars 2011, il y a donc 10 ans, un séisme, un tremblement de terre, dirons-nous, frappait une partie du Japon. Ce tremblement de terre allait couper l'alimentation électrique du réseau d'une centrale nucléaire tristement célèbre aujourd'hui, qui s'appelle Fukushima Daiichi. Ensuite, un tsunami venait à ramener un effet kiss cool, c'est-à-dire un deuxième effet, empêchant définitivement la centrale d'être raccordée à quoi que ce soit d'électrique et entraînant l'accident nucléaire avec l'explosion d'une des la fonte d'un cœur, de plusieurs d'ailleurs. Enfin bon, là, vous connaissez la catastrophe. Alors, si cet accident a provoqué une prise de conscience dans de nombreux pays, vraisemblablement, cette prise de conscience n'est pas arrivée jusqu'à la France, hein, puisque, a priori, pour l'instant, personne ici, dans les dirigeants de centrales nucléaires et les gouvernants, les gens à la tête de l'État, n'en ont tiré de leçons. 10 ans après, les nouvelles mesures de sécurité ne sont toujours pas mises en œuvre. Pire, le gouvernement et EDF souhaitent enfoncer le pays encore plus loin dans cette impasse nucléaire. D'ailleurs, si on regarde, 10 ans après l'accident, la situation de la centrale de Fukushima Daiichi n'est toujours pas sous contrôle. 10 ans après, les niveaux de radioactivité extrêmement élevés rendent illusoires les perspectives de démantèlement à court terme. Plus de 1,2 million de mètres cubes d'eau radioactive s'accumulent sur le site que les autorités pense un jour balancer à la mer, choisissant délibérément d'ignorer les risques de dispersion de cette pollution après dans l'océan à côté. Les conséquences sanitaires continuent de se déployer, elles, en juin 2020, donc il y a à peu près un an, enfin il y a un peu moins d'un an, on recensait 202 cas confirmé de cancer de la thyroïde chez les 300 000 enfants du département de Fukushima. En général, le taux est entre 2 et 3 cas de cancer pour 1 million d'enfants. Donc là, on est beaucoup plus élevé. Alors, c'est la seule pathologie qui est suivie épidémiologiquement par des scientifiques autour de la centrale. Du coup, on n'a que cet indice-là qui est déjà ultra critique et ça laisse craindre quand même des impacts sanitaires globaux bien plus larges et rendus invisibles par l'absence d'études. La catastrophe de Fukushima a venu démontrer qu'un incident nucléaire majeur était totalement possible même dans un pays à la pointe de la technologie. On ne peut plus dire que c'était parce que c'était les soviétiques et qu'ils étaient à la rue. Là, on ne peut pas dire ça des Japonais qui sont largement à la pointe de la technologie aujourd'hui, que ce soit en informatique, en électronique, en automatisme et dans bien d'autres domaines. Donc l'accident de Fukushima a accéléré grosso modo quand même dans le monde le déclin du nucléaire. Pas mal de pays européens d'ailleurs ont décidé après ça, notamment l'Allemagne, le premier, le plus gros pays européen en termes de puissance économique, a décidé de sortir du nucléaire suite à cet accident-là. L'autorité de sûreté du nucléaire en France vient de prolonger, vous l'avez entendu la semaine dernière, j'en ai parlé, la vie des réacteurs français au-delà des 40 ans, soi-disant prévu au départ, on ne savait pas bien. Parce qu'elle est sympa avec EDF, elle a autorisé la réalisation de travaux tardifs, dont des travaux liés aux nouvelles normes post-Fukushima. Donc, normes qui ont été définies dans le sillage de cette catastrophe. Donc là, bon, depuis le temps, EDF n'est toujours pas arrivé à les mettre en œuvre 10 ans après la catastrophe, et un peu moins si on part du moment où ces normes ont été officialisées. Donc, grosso modo, 10 ans après, le bilan n'est pas glorieux. Pourtant, à en croire les partisans du nucléaire, tout va désormais bien à Fukushima notamment. Et l'avenir de l'énergie atomique serait dégagé là-bas comme ici. Pourtant, la réalité est tout autre et on va en parler. Après une décennie, les gouvernants, les militants pro-nucléaires, EDF en tête, et les autorités nucléaires voudraient nous faire croire que cet incident, comme ils le disent, est clos et que la situation est désormais sous contrôle. Donc il ne s'agit pas d'un incident, mais d'un accident, voire d'une catastrophe qui a entraîné l'exode de centaines de milliers de personnes et contaminé un pan entier du Japon. Tout ça n'est pas derrière nous, c'est encore bien du présent et de l'avenir. Mais il faut dire que ça bloque la marche de ce fameux progrès nucléaire. Et du coup, les nucléophiles ne sont pas contents. Ainsi, l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, continue sa propagande, notamment dans son magazine de février, où elle notait les avancées mises en place depuis l'accident. On ne montre que le positif dans le nucléaire, bien évidemment, quand on est une agence de défense de cette énergie à base d'uranium. L'AUEA, de même, il va de sa minimisation en plaidant, comme le gouvernement japonais, au retour des populations. Donc voilà, on en est là. Au final, la catastrophe perd petit à petit son caractère exceptionnel. Elle est normalisée, comme si elle n'avait été qu'un petit détail de l'histoire. Le Japon prépare sereinement les Jeux, enfin pas tout à fait sereinement, mais bon, les prochains Jeux Olympiques, disons qu'il y a une pandémie en plus, donc ça leur complique la vie, mais non, pas tant que ça. Le gouvernement imagine même faire partir à la flamme olympique de la centrale de Fukushima Daiichi. C'était prévu, on ne sait pas ce qui va se passer. Pourtant, il y a toujours des tonnes de déchets radioactifs. Et si vous y allez avec un petit dosimètre, ça va faire un petit peu de bruit dans votre dosimètre. Donc voilà, l'anniversaire de Fukushima se profilait. Pas mal de journalistes, d'écrivains, de militants, de scientifiques y sont allés de leurs livres, voire de leurs bandes dessinées aussi. On avait déjà eu un manga, là il y a une bande dessinée qui vient de sortir. La majorité de ces livres dénoncent quand même la catastrophe et les conséquences qui n'ont pas été tirées de cette catastrophe. On retrouve pas mal d'infos importantes. On rappelle, hein, 300 tonnes d'eau contaminée qui s'écoulent tous les jours dans l'océan, sans parler des millions de tonnes qui sont dans des conteneurs en attendant qu'on les jette aussi dans l'océan. 170 000 tonnes de déchets radioactifs générés par l'accident. 10 millions de personnes sont à la merci au Japon de ces radiations, directement ou indirectement. Au total, 170 000 personnes ont été déplacées. On compte officiellement, alors les chiffres sont partiellement connus, mais il y aura au moins 2267 morts directement ou indirectement liés à l'évacuation, à tout ce qui a tourné autour de l'accident nucléaire, pas directement de la radioactivité, puisque ça c'est plus long et c'est mal comptabilisé, et au Japon notamment. Bref, on a là un des plus grands désastres industriels de notre époque. En termes de conséquences, c'est plus fort que la catastrophe précédente de 86, qui était celle de Tchernobyl. On est bien, bien au-dessus de tout ça. Le problème de la radioactivité, vous le connaissez, c'est que c'est un poison, que c'est invisible, les traces, on ne les voit pas tant que ça, même si on les perçoit dans les territoires. Par exemple, le Japon tente de décontaminer les sols, qui sont gorgés de nucléotides, notamment le césium-137, donc ils raclent sur 5 cm avec des bulldozers la terre, et ils la mettent dans des grands sacs dont ils ne savent que faire, finalement. Ils ont arraché des arbres dans certaines forêts quand les forêts étaient accessibles. Ben, ils ont essayé de faire d'enlever cette radioactivité qui est présente partout tout autour. Mais la population, elle, l'a vécu très différemment. Elle s'est sentie dépossédée du territoire très rapidement, surtout quand on a commencé à lui expliquer qu'il fallait qu'elle apprenne à vivre avec la radioactivité. Aujourd'hui, et même depuis la catastrophe, la population ne peut plus circuler librement, s'approcher des rivières et des montagnes. Par contre, elle a le droit, voire elle est obligée, d'aller revivre à cet endroit-là. Donc finalement, la population est emprisonnée dans cette radioactivité, dans cette obligation de vivre avec des dosimètres. Et puis voilà, ils vivent sous le diktat de ces appareils de mesure de la radioactivité. Ainsi, à Fukushima, un nouveau régime de gouvernementalité, comme on dit dans le monde moderne, a été mis en place de manière plutôt insidieuse. Alors ça avait commencé au lendemain de la catastrophe. Si vous vous rappelez, vous avez peut-être vu les images, des blindés militaires avaient envahi les villages. Plus de 100 000 soldats avaient été déployés. Et qu'est-ce qu'ils disaient aux gens ? Ils n'étaient pas là pour les aider à évacuer, ils leur disaient « restez chez vous ». Et pendant ce temps, les salariés de TEPCO, eux, avaient le droit de partir. TEPCO, c'était la boîte qui gérait la centrale nucléaire qui a explosé. Donc il y avait déjà une instrumentalisation des populations qu'on laissait de côté. « Restez chez vous, attendez, on évacue d'autres personnes plus importantes ». C'était un peu ça. Et c'était, bien sûr, sous la mainmise des forces de répression, et la plus forte étant, bien évidemment, les militaires. Hein. Donc voilà. La population, dès le départ, a été manipulée. On le voit aujourd'hui dans les mesures un petit peu contraires, les ordres contraires, les directives contraires, incertaines, qui sont mises en place. La population devient une sorte de cobaye de l'industrie nucléaire, une sorte de laboratoire à ciel ouvert qui est devenu cette région de Fukushima. Ainsi, le gouvernement japonais et les autorités nucléaires internationales ont tout fait pour banaliser la situation et inciter les populations à revenir. L'exemple le plus flagrant, c'est le seuil de contamination. Normalement, au niveau international, on ne doit pas faire vivre un être humain quand il y a plus de 1 millisievert de radioactivité. Or, là-bas, le taux est passé à 20. Jusqu'à 20 millisieverts, vous pouvez vivre. Vous imaginez 20 fois plus que ce qui était autorisé avant. Vous imaginez les malformations, tout ce qui peut arriver, les cancers qui vont se développer. Voilà. Donc on en est là. Pour accélérer ce retour à la normale voulu par les nucléophiles et par le gouvernement japonais, de nombreux exilés qui avaient un statut d'exilé au sein du Japon, qui étaient logés dans des structures provisoires, ils ont vu leur statut changer, ils sont devenus réfugiés volontaires. Quelque part en disant, c'est de votre faute maintenant si vous êtes réfugiés. Et on leur enlève les aides et les droits. Comme ça, ben vous êtes obligé de retourner dans la zone, dans votre maison contaminée, dans cet environnement dégradé. Du coup, les gouvernements successifs japonais ont cultivé cet art de la désinformation que l'on trouve dans tous les pays où le nucléaire est très présent. La France en est un exemple frappant sur le nucléaire, que ce soit autour de la bombe, des essais nucléaires ou du nucléaire civil, notamment par l'omission d'information, l'omission d'informer, qui est très fort dans le nucléaire et notamment au Japon. Par exemple, la commission d'enquête sanitaire au Japon apprenait l'arrêt des tests et des ports de dosimètres. Pour une raison, elle disait « Non, mais c'était un facteur de stress pour les familles. » Du coup, maintenant, il y a une partie des gens qui sont là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils prennent comme dose de radioactivité. C'est un truc assez classique, on enlève l'instrument de mesure pour faire disparaître ce qui était mesuré, donc là, du coup, la radioactivité. Alors, c'est vrai que les nucléophiles, les nucléocrates, quel que soit le pays, ont toujours défendu que les faibles doses en radioactivité n'étaient pas dangereuses. Alors, en fait, c'est très compliqué de juger de la dangerosité des faibles doses, mais on a quand même pas mal d'études scientifiques qui parlent d'une dangerosité sur le long terme. Donc, ce ne serait pas anodin. Voilà. D'autant plus que on peut avoir une particule radioactive qui à 15 cm n'est pas dangereuse, mais si vous buvez de l'eau qui a cette particule, même une seule ou quelques-unes, et bien cette particule, elle est à quelques millimètres, elle est dans votre corps et donc elle est à quelques millimètres des organes. Donc là, la faible radioactivité devient potentiellement beaucoup plus dangereuse. Voilà. Alors, après cette catastrophe de Fukushima, les fameux administrateurs du désastre qu'on avait déjà vu à Tchernobyl, alors c'était pas les mêmes, mais c'est la même démarche, sont revenus à la charge et Fukushima est devenu leur nouvelle ère de prédilection pour défendre le nucléaire. C'est le cas notamment de Jacques Lechard, donc un ancien économiste du CEA. Un français, donc commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Ils ont rajouté aux énergies alternatives depuis pour essayer de faire croire qu'ils ne défendaient pas que le nucléaire, mais c'est juste de la propagande. Lui, et ça a été repris du coup par les gouvernements japonais, il incite les habitants, je cite, à la responsabilisation et les invite à co-gérer leur irradiation. Vous imaginez, vous êtes habitant, un industriel fait un accident. On dit aux populations, vous allez apprendre à co-gérer le risque, tout ce qui vous arrive. C'est vous qui, finalement, qu'en êtes en partie responsable. C'est un truc assez incroyable. Les nucléophiles sont très très forts. Et cette horreur qui s'appelle Jacques Lechard en est le pire exemple. Mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, au Japon, donc après cette catastrophe, le gouvernement japonais a créé un ministère dit de la résilience pour faire accepter aux populations de vivre avec la radioactivité. Non. Alors, il y a eu des lois, un livre blanc, et puis on a tenu des propos du genre « Citoyens, vous allez apprendre à travailler de manière coopérative avec les politiques pour vivre avec la radioactivité ». C'est beau, hein, quand même, tout ça. Bien sûr, on redonne jamais aux citoyens et aux citoyennes japonaises, pour le coup, les vrais impacts de la radioactivité. Voilà. Alors, c'est aussi une manière de couvrir finalement les scandales à répétition. On rappelle que pas mal de fonds alloués à la reconstruction ont été détournés par la mafia nippone, les yakuza, tout ça. Voilà. Alors, si on veut prendre quelques exemples, alors il suffit de regarder les documentaires, il y en a pas mal. Vous retrouvez un peu toujours la même chose tout autour de Fukushima. Alors, 10% à peu près de la population est revenue, malgré les incitations. Et ces 10%, c'est essentiellement des personnes âgées. Qui tenait vraiment, qui était là depuis toujours et qui avait un lien très fort avec l'endroit où ils vivaient. Et alors, il y a quelques jeunes qui reviennent. On a un exemple d'un coiffeur qui se réinstalle. Il dit, les gens avant, ils étaient obligés ceux qui s'étaient réinstallés, de faire une heure de voyage pour aller se faire couper les cheveux. Je me suis donc réinstallé. Sauf que quand l'enquête regarde, 80% de ses clients sont les ouvriers qui travaillent sur la centrale nucléaire. Finalement, il n'y a plus tant que ça d'habitants. Donc on en est là. C'est pareil sur l'agriculture qui est censée avoir recommencé. Eh ben, on se rend compte qu'en fait, c'est un quart des terres qui est à nouveau cultivé. Les trois autres quarts ne sont pas cultivés parce que les agriculteurs ne sont pas revenus. En fait, seuls les agriculteurs âgés sont revenus pour la même raison que d'habitude. Donc on en est là. Alors, pour terminer, sur Fukushima, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait, comment on vit après une catastrophe. Il y a pas mal de travaux qui ont montré que créer une sorte de mémorial enfin un mémorial d'ailleurs, d'un accident quelque, ou de, d'une catastrophe. C'était important pour les victimes et leurs proches, ça leur permettait d'accepter les choses, ça avait une fonction cathartique comme on dit, et ça leur permettait d'accepter ce passé et de vivre avec. On se rappelle, alors le Japon a fait ça très bien, notamment au mémorial d'Hiroshima, qui a été créé en août 55, 10 ans, donc pile après l'explosion de la bombe atomique américaine sur la ville d'Hiroshima. Aujourd'hui, on est 10 ans après la catastrophe, on s'est dit, il pourrait y avoir un mémorial, du coup, à Fukushima, pour que les populations fassent leur deuil, apprennent à vivre avec, fassent tout un travail. Non. Le gouvernement a prévu une modeste cérémonie nationale et globalement sur le tremblement de terre et le tsunami, sans particulariser l'accident nucléaire. Ça s'est passé au théâtre national de Tokyo, donc même pas dans la vraie zone, dans la zone. Une minute de silence observée à 14h46 heure de l'accident nucléaire et c'est tout. Et il n'y a pas tout ce qui a été fait, notamment sur Hiroshima, qui a été très important dans la mémoire collective des rescapés, il y en a eu quelques-unes, et ben non, le gouvernement refuse de faire ça à Fukushima. Alors il y a quelques traces de mémorial, on a un musée qui a été transformé, avant c'est le musée de l'énergie, TEPCO, entreprise responsable de la centrale et de l'accident nucléaire, a fait une sorte de musée souvenir, mais, alors certes, il raconte exactement les événements, comment ça s'est passé, et par contre après, on a essentiellement des témoignages des salariés qui disent comment ils sont en train de vaincre tout le problème, évacuer les déchets. Et en fait, c'est une sorte de, pas de mémorial, mais de truc à la gloire de l'entreprise. On en est là au Japon, et c'est tout ça qui fait que ça se passe pas bien à Fukushima. Ça se passe pas bien globalement autour des accidents industriels, et particulièrement des accidents nucléaires. Aujourd'hui, c'était les 10 ans. Je voulais reparler un peu de cette catastrophe, parce que 10 ans après, on n'a pas de solution. Je pense qu'ils annoncent peut-être que dans 40 ou 50 ans, ils arriveront à faire quelque chose. On n'en est pas vraiment sûr. On en est là, mais ne vous inquiétez pas. Les Jeux Olympiques auront sûrement lieu cet été 2021.
Alors on va parler de spectacle maintenant, puisqu'il y a toujours cette question. Quand est-ce que tout ça va reprendre?
Tu veux dire les concerts, le théâtre, le cinéma, tout ça?
Voilà. Donc il y a des gens que ça énerve un peu, parce qu'il faut dire que ça fait bientôt un an qu'ils fichent rien.
C'est pas des glandeurs, ils veulent travailler.
Les artistes, comédiens, comédiennes, les techniciens, techniciennes du spectacle. Enfin, tous ces gens qui se font un petit peu du souci, puis qu'on en marre et qui aimeraient bien avoir un peu une visibilité, parce qu'il faut dire que c'est quand même un secteur qu'on trimballe pas mal. Hein. Oui, bientôt. Ah bah non. Ah peut-être. Ah mais si. Ah bah non. Vous voyez, ça donne un petit peu ça. Donc il y a des occupations qui se mettent en place un petit peu de partout sur le territoire. Alors c'est pas des occupations la violence, même si à Paris, avec le théâtre de l'Odéon, il y a eu quelques problématiques avec les CRS, mais il semblerait que le monde du spectacle ne soit pas très proche du monde de l'uniforme bleu. Je sais pas pourquoi.
Tu connais beaucoup de monde qui est proche de ces gens bleus.
Mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est pas des occupations agressives. Il y a derrière un accueil, une bienveillance à la fois des directeurs, des directrices de salles, mais aussi de ceux et de celles qui étaient en répétition, en espérant un moment monter sur scène sur les lieux. Donc, c'est plutôt bien accueilli. Alors, c'est un peu de partout. Donc, Julia, il y a à l'Odéon à Paris, on a maintenant aussi la Colline, toujours à Paris, on a le Théâtre National de Strasbourg, on a l'espace pluriel, les espaces pluriels de Pau, on a le Théâtre Grasselin de Nantes, l'Equinox à Châteauroux, le Théâtre de la Cité à Toulouse, le Moulin du Roc à Niort et le Théâtre du Nord à Lille. J'ai vu aussi, il me semble qu'à Besançon, ça démarrait aussi. Donc, peu à peu, ça a pris un petit peu de l'essor, hein, ces occupations. On retrouve plusieurs personnes dans ces occupations, c'est-à-dire effectivement les gens du spectacle, les artistes, les techniciens et techniciennes, ceux et celles qu'on appelle les intermittents, un petit peu souvent trop abruptement, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, les étudiants, les élèves aussi d'écoles d'art et d'art dramatique, qui se posent bien la question de savoir ce qu'ils vont devenir, alors qu'ils voient qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc, il y a un certain nombre de demandes, hein, qui sont faites. C'est d'abord pour les intermittents du spectacle, le maintien des droits le plus longtemps possible, face à la crise, puisqu'effectivement, hein, tout de suite, l'année dernière, en mars, avril, mai, on avait eu ces annonces qu'il y allait avoir une année blanche. Et moi, je pensais à cette époque-là que la chute pouvait être très brutale. Vous savez, on veut toujours couper les vivres aux intermittents et aux intermittentes du spectacle en prétendant qu'en fait, ils fichent rien.
Bon. Ou qui coûte trop cher. Ouais. Enfin voilà, les excuses de la part des libéraux sont voilà, ils en ont pas mal sous le coude en fait.
Il y a ces questions-là bien évidemment, mais chez les étudiants et les étudiantes, chez les élèves de ces écoles, il y a aussi des demandes sur l'accompagnement à l'emploi. Comment on va sortir de nos écoles et qu'est-ce qu'on va y faire et comment on va y faire. Donc il y a ces questions-là et puis il y a la question évidemment de savoir. On veut maintenant un agenda, on veut un planning, et puis les questions de il faut soutenir la création, il faut soutenir la diffusion, comment est-ce que tout le monde, tout ça va se passer. Alors, à l'Odéon, au Théâtre de l'Europe, c'est depuis le 4 mars, il y a des assemblées générales. Au début, il y avait une cinquantaine de militants et militantes, hein, avec de différents syndicats qui sont arrivés. On retrouve toujours très fortement, et en particulier dans les médias, la CGT Spectacle, qui a ce côté marxiste. Non, c'est pas une bonne définition, mais en tout cas, il y a cette espèce d'autoritarisme qu'on peut retrouver dans cette ancienne CGT, hein, dans cette tradition de la CGT. En tout cas, on peut pas reprocher quand même à ces syndicalistes de se bouger les fesses, bien évidemment. C'était juste une petite, comme ça, pointe hein, de ma part. Il y a, en tout cas, à l'Odéon, comme je vous le disais, du soutien. Dimanche, Robin Renucci, donc, au nom de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux, a annoncé le soutien entier à la mobilisation. C'est Christophe Honoré aussi qui doit normalement un jour peut-être faire une pièce à l'Odéon, qui apporte évidemment son soutien. L'idée de toutes ces occupations partout sur le territoire, c'est pas de bloquer, hein, bien évidemment, puisqu'en plus il y a une bienveillance et c'est bien accueilli. L'idée, c'est que demain tout est relancé, les occupations s'arrêtent, sauf si évidemment le gouvernement se mettait à nous dire « Oh ben maintenant, allez tous retravailler, on arrête l'intermittence, là évidemment il y aura un gros mouvement. » Mais du moment que les gens vont pouvoir retourner travailler, répéter, toutes ces occupations pourraient évidemment s'arrêter. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la visite de Roselyne Bachelot samedi à 22h, visite plus ou moins surprise, à l'Odéon. Au début, tout le monde semble plutôt ravi. Hein. Roselyne semble toujours vouloir être très copine avec le monde du spectacle. D'autres avant étaient dans le ciné, l'art. D'autres nous ont expliqué qu'ils aimaient pas lire, qu'ils avaient pas le temps. Roselyne, quand même, hein, elle y va, hein, elle se montre, elle raconte des choses. Sauf qu'à chaque fois qu'elle raconte des choses, il n'y a rien dedans.
Et là, je crois qu'elle a même critiqué, elle a dit que c'était contre-productif, les occupations, que ça servait à rien.
Alors, effectivement, tu racontes un petit peu la fin. Mercredi, hier, elle a dit, la Roselyne, l'occupation des lieux de culture n'est pas le bon moyen, c'est inutile. Ces manœuvres sont dangereuses, car elles mettent en menace des lieux patrimoniaux fragiles.
Alors, il faudrait qu'elle explique quelle est la démarche à avoir pour réobtenir l'ouverture, puisque si celle-là n'est pas bonne, qu'elle en propose une.
Alors, encore une fois, les militants et militantes, les occupants et les occupantes ne gênent personne. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de public. Au mieux, il y a des répétitions.
Mais je pense encore, que c'est pas y avoir grand-chose.
Voilà. Le théâtre Odéon est quand même un endroit où il y a de la place aussi. Donc, il y a le foyer, par exemple, des artistes qui a été remis au goût du jour, qui permet d'accueillir justement cette occupation. Il faut savoir que les gens, ils dorment hein, quand même là-bas. Mmh. Donc, il y a aussi évidemment l'organisation qui se met en place pour maintenir ces mouvements. Il y a des appels à rassemblement, donc ces assemblées générales. Elle a dit aussi quelque chose, Roselyne, qui a beaucoup fâché, parce que alors cette phrase-là, c'est inutile, si, et puis ça menace personne, donc ça fait réagir dans les deux cas. Et elle a dit aussi, c'est une spécificité de la France, dans aucun pays du monde, on ne soutient la culture comme on le soutient dans notre pays. Nous travaillons à maintenir les droits des intermittents. Alors, en disant ça, elle sous-entend quand même qu'il faudrait pas trop qu'ils se plaignent, ces intermittents et intermittentes du spectacle, parce qu'ailleurs ça n'existe pas.
C'est une réalité.
Ah, mais oui, mais enfin, bon, c'est pas parce qu'ailleurs c'est pourri qu'en France, on doit tout enfoncer, si vous voulez. C'est un petit peu comme la réponse qui lui a été donnée. En tout cas, sur cet argument un peu pourri. Mais tout ça, évidemment, est très compliqué. Le théâtre de l'Odéon, donc, toujours occupé. Alors, attendez, je vais vous faire un petit peu ce qui se passe ailleurs. On a la colline. La colline, c'est beaucoup d'étudiants, hein, pour l'instant, qui sont à la manœuvre. C'est plutôt bien. À Pau, donc, le théâtre occupé, qui a suivi tout de suite très très rapidement l'appel fait par les militants, les militantes qui occupent l'Odéon. Alors évidemment au début c'est jamais grand monde, mais après les mouvements grossissent, hein, il y a des rendez-vous, c'est comme le fait d'y dormir, on sait qu'il y a toujours moins de monde, mais en tout cas là ça risque pas grand chose, ils vont pas se faire mettre dehors tout de suite. Alors évidemment aussi sur place les gens essayent de rencontrer les adjoints et les adjointes à la culture, hein, des municipalités, pour essayer de faire remonter au ministère les choses, et puis essayer de faire sur place du mouvement, peut-être récupérer la subvention aussi, en tout cas des aides locales. Donc il y a cet endroit-là. À Nantes, quand même une ville qui bouge beaucoup, ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas aussi un mouvement. Donc là, c'est le théâtre Grasselin dont je vous parlais tout à l'heure. Tout de suite, il y a eu l'idée, évidemment, d'y passer la nuit. Au début, c'était une quarantaine. Hein, et puis, évidemment, tout ça ne fait qu'augmenter. Et puis là, on a appris aussi Strasbourg. À chaque fois, évidemment, tout ça est accompagné d'Assemblée Générale, de rendez-vous et de mouvements. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Où est-ce qu'on en est sur cette question ? Puisqu'en France, vous savez que depuis déjà un petit moment, on nous parle de ces fameux concerts tests. On avait beaucoup entendu parler de celui qui doit se tenir à Marseille, avec l'accord de la municipalité. Et puis on vient d'apprendre qu'une autre ville est choisie, c'est Paris. D'après le ministère, les ministères, puisque évidemment là c'est une fusion, cohésion... des ministères sur cette question. Il y a eu beaucoup de demandes, très peu d'élus. La plupart du temps, les municipalités ont vu leur dossier rejeté pour ne pas avoir de règles sanitaires, de projets sanitaires assez corrects. Alors, c'est des événements qui doivent se passer c'est du cobaye, hein, c'est concert test, c'est-à-dire mettre à Paris 5000 personnes. C'est à l'Arena Bidule, là. Accor Hôtel Arena, c'est comme ça que ça s'appelle en vrai. Ça m'écorche la bouche, pardon.
Enfin, on appelle ça Bercy, quoi.
Bercy, ouais, mais ça va finir par s'effacer dans nos mémoires, ce nom, quoi. Donc on sait qu'à Paris, c'est Indochine qui devrait faire ce concert test. Voilà, on ne sait pas la suite de la programmation, ça va venir au fur et à mesure. Il va y avoir 7500 personnes sélectionnées, 5000 volontaires vont pouvoir aller au concert, ils seront tirés au sort, les 2500, vous resterez chez vous, hein, tant pis. Là, l'idée, c'est de comparer les taux d'incidence du virus entre les deux groupes, ça s'est fait, hein, dans d'autres circonstances, on s'est fait dans les musées aussi, par exemple. Là, il va falloir être d'abord testé avant, testé après, enfin, plein de choses comme ça. L'idée, c'est évidemment de participer à une étude à Marseille comme à Paris. Alors, il y a un dossier qui a fait causer un petit peu, qui apparemment a fait râler le ministère de Roselyne, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a fait savoir que la ville avait postulé, mais qui avait fait parvenir son dossier a priori en retard, qui a continué à insister. Et donc, ça fait causer beaucoup, parce que c'est pour l'instant un dossier qui est malgré tout mis à l'écart. Alors, reste à savoir si d'autres villes vont être choisies. Et puis surtout, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être que des municipalités qui vont organiser? Est-ce qu'il va y avoir un public privé? Comment tout ça va finir par se définir, justement, non seulement dans le cadre des protocoles sanitaires, mais dans le fait tout pratique de savoir qui va organiser tout ça. Et puis, les Eurocoen de Belfort, ce festival, a fait une consultation auprès de 21 418 personnes pour savoir quelles conditions... elles accepteraient ces personnes pour venir au festival. Alors l'idée, c'était de savoir effectivement comment appliquer des mesures sanitaires, dans quel cadre. Alors, à 69%, les personnes ont répondu accepter de passer un test de dépistage du Covid-19 ou de la Covid-19 pour accéder au festival. 72% sont prêts à accepter de porter un masque. Bon. Et puis... Puis il y a les trucs qu'on veut pas, hein, quand même. 72% rejettent le fait d'assister au concert assis. Pour la distanciation sociale, c'est rejeté à 48%.
Le rock s'y prête quand même pas, du coup, les gros trucs. La musique classique s'y prêterait beaucoup plus, par exemple.
Et la grande question qui soulève un petit peu des interrogations de partout, dans tous ceux et toutes celles qui voudraient faire des choses, c'est la buvette. Ouais. Est-ce que le festivalier et la festivalière sont prêts à se passer de buvette? À 73%, les festivaliers des Eurocaen interrogés répondent non. Voilà, ça fait aussi partie du festival, du lieu aussi de restauration, j'imagine aussi de l'ambiance. Il faut savoir que les Eurocaen ont dit vouloir maintenir leur festivité. Bon. Pour l'instant, la grande question est de savoir comment tout ça va se passer. Alors, en Israël, à Tel Aviv, c'est des concerts en plein air qui sont organisés d'une manière plus réduite. Pour l'instant, c'est 500 personnes, mais ça se passe bien.
Oui, alors ils ont même prévu plus gros. Ouais. Ils divisent la jauge grosso modo par deux ou par trois. Tout le monde est masqué. Il faut amener soit un certificat de vaccination qu'ils ont, soit un test. Et il n'y a pas de buvette. Et en fait, ça va se passer très bien. Il n'y aura pas de contamination. Et avec ces mesures-là, il n'y a aucune raison de ne pas faire de spectacle. En fait.
Et puis c'est à New York où les salles de cinéma réouvrent. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le secteur culturel et du spectacle est complètement sinistré. On parle de la moitié des personnes qui ne retrouveront pas de travail. Les chiffres sont pour l'instant un peu flous et bien évidemment, il faut attendre une reprise. Mais c'est pas très très bon. S'il y a beaucoup un syndicalisme très fort, par exemple, à Hollywood et dans le cinéma, c'est pas le cas du spectacle vivant, par exemple. On sent que, vous savez, hein, le spectacle et la culture en général, on en fait toujours un truc de gauche, mais c'est quand même un truc où il y a les gens les plus riches et les gens extrêmement pauvres. Et donc là, d'après les nouvelles études, on est en train de créer un nouveau groupe de pauvres, c'est-à-dire que c'est plus simplement des précaires et des gens qui s'en sortent. C'est une nouvelle pauvreté issue du spectacle et de la culture qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Je ne sais pas si le président Biden va pouvoir y faire quelque chose. En tout cas, à New York, les cinémas peuvent enfin réouvrir, mais que dans des conditions
pareil,
un peu particulières.
C'est un tiers de la jauge, pas le droit
25%.
De manger. Ouais, un quart du coup. Voilà. Pas le droit de manger, pour que ça soit sûr à 100% en fait, ils ouvrent.
Alors l'idée c'est de pouvoir obtenir une jauge complète à l'été. Le problème qui se passe c'est qu'il n'y a rien à mettre dans les fiches.
C'est-à-dire qu'il y a. Oui, personne ne va oser sortir de film que dans un endroit.
À la rigueur, l'arrêt l'essai, il y en a, ils vont peut-être arriver à s'en sortir en nous ressentant un petit peu des choses. Pour les cinémas qui ont encore une thématique en particulier à New York. Mais pour les blockbusters, c'est mort, il n'y a rien, personne ne prend de risque. Donc, en même temps, c'est qu'est-ce que je peux ouvrir mon cinéma, mais j'ai rien à vous proposer ou pas grand-chose. Donc, ça attire pas forcément les foules, à part les gens qui avaient vraiment envie d'aller s'asseoir devant un écran et la lumière qui s'éteint et hop, le film qui commence, cette magie du cinéma, comme on dit. Et puis, il y a quand même aussi des salles qui ne sont pas réouvertes, qui sont restées fermées. C'est l'Alamo Drafthouse qui a déposé le bilan mercredi, où la chaîne Régal, hein, c'est 500 succursales dans tout le pays, et qui ne réouvrira pas aussi. Donc voilà, c'est un secteur qui est difficile. Donc oui, on sait bien qu'en France, on a de la chance, mais c'est pas une raison non plus pour tout mettre à terre. Et puis, dernier sujet sur la culture, je voudrais parler de ce qui se passe à Lyon, à l'Opéra de Lyon. Vous avez peut-être entendu cette petite polémique, enfin moi je trouve que c'en est pas une, mais qui découle encore des décisions de notre nouveau maire.
Le Khmer vert.
Grégory Doucet. Il va faire passer ça au vote du conseil municipal les 25 et 26 mars prochain, il demande à diminuer de 500 000 euros la subvention annuelle de l'Opéra de Lyon. Alors, ça va passer de 7 500 000 à 7 millions d'euros.
Vous imaginez la somme énorme que c'est. Hein.
Oui, alors il y a des financements d'État, 6,5 millions, et puis la région et la métropole, 2,5 millions. Pour la région, 2005 pour la métropole, donc oui, les 500 000 euros...
Le directeur de l'Opéra de Lyon gagne plus qu'un ministre, par exemple.
Alors, Serge Dormy, tu en parles, c'est sa dernière année, il va laisser la place ensuite, et donc il a finalement le droit de s'énerver, puisqu'il ne s'est jamais remarqué garder sa langue dans sa poche. Donc lui, il dénonce une idéologie anti-opéra.
En fait, ouais.
Donc, on va retrouver cette attaque dans un autre communiqué dont je vais vous parler. En tout cas, du côté de la municipalité, c'est Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture, qui répond aux critiques en rappelant qu'il faut arrêter de tomber des nues. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui traduis. Parce que ça faisait partie du programme de Grégory Doucet de baisser la subvention de la ville de Lyon.
Pour la mettre ailleurs, hein, pour faire plus d'égalité. Parce que c'est on ça. Rappelle que si on prend l'opéra et l'orchestre national, enfin l'auditorium, il ponctionne la majorité de l'argent de la culture. Hein, finalement, il ne reste que des miettes aux autres. Effectivement, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus d'égalité. En tout cas, c'était ce qui est proposé. Alors, je ne vais pas penser que Nathalie Perrin-Gilbert fait de l'égalité. On rappelle qu'elle a censuré Radio Canut. Elle a empêché Radio Canut de faire la fête de la musique il y a quelques années.
Qu'est-ce que tu es,
parce qu'elle n'aimait pas les artistes indépendants, le punk et tout ça. Hein.
Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu la Chambre régionale des comptes qui reprochait souvent la place dans les finances de la ville de Lyon de l'opéra et qu'il fallait peut-être répartir au mieux. Et c'est ce que fait ici Grégory Doucet et son équipe. Bien évidemment, il n'est pas tout seul. Alors, on a des réactions qui sont quand même magnifiques. Étienne Blanc, qui est sénateur, hein, quand même, comme quoi on peut avoir des positions importantes et dire absolument n'importe quoi. Cette décision, je le cite, est un premier pas vers l'idéologie des Verts et de l'extrême gauche en matière culturelle et une participation à l'affaiblissement de Lyon. Après la rééducation du goût, nous passons à la rééducation des culturels des Lyonnais.
Lui, la diversité culturelle, ça lui parle pas.
Non, mais non, lui, je pense qu'il va manger de la saucisse au sein de l'opéra pour bien montrer comme quoi c'est des Khmer Verts et qu'il est pas content. Bon, alors, je vous disais, Domi va s'arrêter. C'est Richard Brunel qui va prendre la place. C'est sûr qu'il arrive là avec cette espèce de polémique, hein, budget un peu réduit. Alors, lui aussi se dit surpris. Bon, il dit cette décision semble acquise, alors même qu'elle n'a pas été débattue au conseil municipal. Alors moi, je voudrais dire que c'est plutôt des gens comme Étienne Blanc qui font la polémique et qui fait qu'on en parle comme si c'était acquis. Puisqu'effectivement, ça va passer au vote le 25 et 26 mars prochain. Il dit aussi, Richard Brunel, je l'aime déjà. Cela est surprenant quant à la méthode. Je peux dire que si cette mesure devait être confirmée, elle aurait inévitablement des impacts conséquents sur le projet de création et d'ouverture que je veux porter à l'Opéra de Lyon. Bah Richard, tu vas perdre 500 000 balles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ces 500 000 balles, ils iront dans plein d'autres projets et largement plus ouverts que tout ce que tu pourras faire avec ton opéra.
Alors, j'ai trouvé encore mieux. C'est les forces musicales, je suis allée chercher leur communiqué de presse sur leur site internet. C'est le syndicat pro avec 47 opéras et orchestres. Ça regroupe... On s'en fout. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée de ce que ça représente. Non, parce que ça, en 2015, il y a des trucs qui ont fusionné. C'est pour ça, mais je ne vais pas vous faire la liste. Alors, le syndicat, je cite, s'étonne de l'annonce brutale d'une réduction de la subvention allouée par l'exécutif municipal à l'Opéra de Lyon, baisse de 500 000 euros qui doit être votée par le conseil municipal fin mars, à l'heure où le monde de la culture traverse une crise profonde. Les forces musicales estiment que la sortie de crise ne doit pas être compromise par des décisions irresponsables et brutales. Irresponsable car le moment oblige la puissance publique à nous projeter collectivement vers des lendemains meilleurs plutôt que de nous monter les uns contre les autres. Brutale parce qu'elles ébranlent l'esprit de confiance, de dialogue et d'entraide qui nous a animés depuis le début de cette crise. Alors c'est marrant parce qu'ils ne veulent pas partager.
Oui, non mais c'est cette culture élitiste là qui concerne qu'une infime partie de la population et qui finalement récupère la majorité des subventions, ils ne veulent jamais partager. Hein. Ils sont très égoïstes ces gens avec leur culture élitiste là.
Voilà.
Alors, je vais revenir sur une info qu'on a suivie dans ce Canu Info. C'est l'histoire de Madama, j'en ai parlé deux fois, et de ses deux tuteurs, Véronique et Eric, donc un couple d'enseignants, qui se battent depuis plusieurs mois pour que ce jeune migrant, qui est là en France depuis un petit moment, puisse rester en France. Nous sommes donc en Haute-Loire, pas très loin de Lyon, le pays de Laurent Wauquiez. Et les nouvelles ne sont pas rassurantes, ça nous est arrivé hier. Parce que, alors faut savoir, on a eu des hauts, des bas, des chauds, des froids. On a eu une espoir de régularisation après un bon mois de lutte acharnée, une grève de la faim d'Eric, et la stupeur d'un pauvre jeune homme qui se retrouve en prison. Un centre de rétention, très exactement, pour prendre le terme administratif, mais c'est d'une prison avant l'expulsion. Ce choc est venu mardi dernier, on était le 9 mars. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont convoqués au commissariat de Gerzat, dans la région, là, en Haute-Loire. Au départ, officiellement, c'est un simple rendez-vous avec la police de l'air et des frontières dans le cadre du réexamen accordé par la préfecture suite à la demande de régularisation. Mais en fait, la police, elle a menti quelque part, et elle a transformé ça en traquenard. Oui, la police française, c'est une belle tradition dans ce genre d'horreur. Et ben voilà, le pauvre Madama a été donc arrêté comme ça de manière sournoise par les forces de répression françaises. C'est le préfet de Haute-Loire hein, qui a décidé tout ça, mettant en doute notamment, une fois de plus, la validité des documents issus du Mali qui atteste de l'identité de Madame A, ça remet en cause son âge, etc. Comme d'habitude, hein, quand l'État xénophobe veut renvoyer un migrant, un sans-papier, un être humain qui n'aurait, d'après l'État, pas sa place ici. Donc, ils l'ont placé en garde à vue dès son arrivée au commissariat. Ils l'ont questionné. Ils ont aussi questionné Eric et Véronique, ces deux tuteurs et soutiens qui font tout pour qu'ils restent ici. Eux, ils ont été relâchés et ils attendaient devant le commissariat que Madame A soit relâchée parce qu'ils ne savaient pas que c'était un traquenard qu'avait monté la police de l'air et des frontières. Ils pensaient que c'était juste pour effectivement une demande d'information sur la demande de régularisation. Et vers 19h, devant le commissariat, un policier sort et leur dit ça ne sert plus à rien que vous attendiez, parce que Madame A, il est en route déjà. Il est parti dans une voiture, dans un panier à salade, pour le centre de rétention de Lyon, en vue de son expulsion. Donc c'est l'horreur absolue. Après une journée d'angoisse, vous imaginez, hein, interrogé par des forces de répression comme ça. Ça se termine comme ça. Alors le lendemain, ils ont quand même participé, donc hier, à 14h devant la préfecture du Puy-en-Velay, une manifestation qui a été organisée d'urgence par le comité de soutien à Madame A. Alors maintenant, il y a la justice qui s'en mêle, hein, puisqu'ils ont déposé à l'aide de leurs avocats des recours devant le tribunal administratif afin de contester les décisions du préfet. Donc la bataille n'est pas terminée, mais c'est quand même super critique. On retrouve cette haine d'État, cette xénophobie d'État, ce quasi-racisme d'État, cet inhumanisme d'État qui a entraîné ce traquenard de la part de la police de l'air et des frontières pour pouvoir être sûr d'arrêter ce jeune homme et de le mettre en centre de rétention avant de l'expulser. Manu Militari, voilà. Quand on imagine qu'à une époque, la France était considérée comme le pays des droits humains, on a juste envie de vomir. C'est dans la belle tradition d'arrêter comme ça les gens de manière discriminatoire. Bien sûr, officiellement, la police suit les lois, hein, bien évidemment. Elle a eu cette excuse à toutes les périodes sombre de l'histoire du pays. Donc voilà, alors on vous donnera des nouvelles si on en a la semaine prochaine, en espérant qu'ils ne soient pas expulsés d'ici là.
Alors on va parler d'œuvres numériques et de crypto-art. Nous venons encore dans l'art de dépasser quelques records. Alors on avait eu cette vente organisée par Nifty Gateway d'une œuvre de la musicienne Grimm, qui avait vendu son œuvre numérique, les 10 œuvres numériques, à 5 800 000 $. Donc c'est un système particulier, hein, ces ventes numériques. Et puis là, on a appris aujourd'hui que Beeple a vendu son œuvre 69 millions $. Et là, c'est Christie's qui a organisé cette vente. C'est donc l'entrée dans la cour du crypto-art de l'œuvre numérique des salles classiques.
Et c'est quoi ces œuvres numériques?
Alors, ce sont des œuvres d'art.
Oui, c'est-à-dire sous quelle forme numérique?
Alors, on a de la vidéo. On a par exemple, pour cette œuvre de Beeple, c'est un assemblage de dessins et animations qu'il a réalisé pendant 5000 jours et qui donc est, si vous voulez, numérisé. C'est-à-dire que tu l'as sur ton ordinateur. C'est évidemment donc un fichier numérique.
En fait, ils ont vendu un fichier numérique ce prix-là, quoi.
Tout à fait, mon ami, je te sens tout à fait.
C'est compliqué,
sceptique.
Quoi.
C'est ce qu'on appelle la version numérique munie d'un NFT, c'est le jeton non fungible. Oui. Hein, vous connaissez le principe maintenant, c'est-à-dire que ça marque votre fichier et il existe en tant que tel, ce qui est censé aussi le protéger de la contrefaçon.
Oui, parce qu'un fichier numérique, c'est facile à copier. Hein.
On en reparlera dans quelques années, hein, c'est pareil. Hein. Tout se craque. Là, c'est quand même 69 300 000 dollars. C'est une nouveauté pour Christie's qui se met dans l'affaire. Et d'un seul coup, on a ce nouveau record, un truc absolument dingue. Nifty Gateway avait vendu une œuvre le 22 février dernier de Beeple pour 6 600 000. Donc on était évidemment bien plus bas. Et puis, il y a cette affaire d'une œuvre de Banksy. Alors c'est
c'est pas numérique normalement.
Injective Protocol qui est à la manœuvre et qui a décidé de se cramer une des 500 gravures de Morons White. C'est une des œuvres de Banksy. Il y en a donc 500 exemplaires en 2006. Là c'est la numéro 325 cette œuvre de Banksy.
Donc c'est du papier. Sais,
des fois
c'est
oui. Banksy.
Lithographie numérotée.
C'est de la série. C'est quand il fait la série Banksy. Et donc C'était une œuvre acquise pour $95,000 qui a donc été cramée et qui était filmée, et donc il y a une version numérique de ce travail.
Ah oui, le fait de filmer cette œuvre en train de brûler, ça devient à son tour une œuvre d'art.
Du réel au virtuel, c'est-à-dire qu'on a l'œuvre qui existe jusqu'à l'œuvre qui disparaît. Je vous la fais courte. C'est un vrai phénomène qui se met...
Mais il l'a vendu cher, ça, son œuvre numérique ? Non, tu sais pas.
Alors, Invective, écoute, pour l'instant, j'ai pas encore le tarif de ça, mais l'idée, paraît-il, c'était de transcender l'œuvre première. Alors, il reste toujours les 99...
Ouais, oui, c'était une
499
série, c'est pas grave.
Alors, la série, je suis pas sûr que ça soit grave. Il y a un débat, évidemment,
enfin, grave.
Qui sort. Alors, eux, ils expliquent, évidemment, le but, c'est pas d'amener à cramer les œuvres pour d'un seul coup les passer sur de l'œuvre numérique et du cryptoire, hein, et ça allait pas... je crois qu'il va pas aller brûler la Joconde, peut-être, mais peut-être...
Ouais,
en tout cas, la faire disparaître. Ouais. Mais c'est vrai que ça amène une nouvelle dimension à l'art. Et on sent bien que cette technologie de la blockchain intéresse les marchands d'art, non pas pour la technologie, mais pour le pognon qu'ils vont pouvoir se faire.
En fait, c'est pas pour l'amour de l'art, c'est juste pour des questions de capitalisme.
Alors, c'est vrai qu'il y a cette espèce de petit truc qui a l'air de faire frissonner, cette espèce de crypto-signature. Vous voyez, on sent que le marché s'emballe quand même sur cette question. Et puis, comme c'est nouveau, bah, effectivement, pour certains et certaines, bah, y a du pognon... à se faire. Alors, on sent bien que chez certains galeristes que j'ai pu lire dans la presse, dans différents médias, on sent qu'il y a de vraies possibilités, que c'est illimité et que les artistes vont pouvoir expérimenter et donc développer leur créativité autrement. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus simplement l'œuvre. Vous voyez que vous pouvez tourner autour, même le tableau, hein, vous pouvez voir derrière, des fois il y a même des jolies petites signatures qu'on découvre, mais c'est un nouveau filon, hein, très clairement pour le marché de l'art, qui ne souhaite jamais s'endormir et qui a encore réussi à nous inventer un nouveau truc. C'est à la fois nous vendre avec cette blockchain des... j'allais dire de nouveaux objets, en fait, des nouveaux produits.
Oui, parce que c'est plus un objet.
Mais ça reste de l'art. Et puis, tout va s'inventer maintenant, parce qu'effectivement, avec le numérique, tout peut se créer, tout peut se développer. Mais c'est quand même intéressant de voir le marché traditionnel de l'art se positionner là-dessus. C'est d'ailleurs qu'il y a vraiment du film.
Ouais, ça me dépasse. Un petit retour à Hong Kong, enfin très exactement en Chine d'ailleurs d'abord, mais au sujet d'Hong Kong, parce qu'on avait la session plénière de l'Assemblée nationale populaire à Pékin qui s'est terminée aujourd'hui. Sans surprise, les délégués ont voté la loi réformant le code électoral de Hong Kong à 2895 voix pour et une abstention, donc celui qui s'est abstenu il est mort hein, depuis, enfin bon bref. Donc c'est les délégués sont restés assis, mais ils ont applaudi à la fin de la résolution, montrant que ces élus communistes chinois étaient contents de détruire la démocratie hongkongaise. Donc cette réforme du système électoral à Hong Kong, c'est le plus important des derniers changements apportés à la constitution de la région. On rappelle qu'il y avait un système, ça s'appelait un pays, deux systèmes, qui avait été négocié avec l'ancien colonisateur anglais en 1997. Et là, la Chine vient de tout détruire définitivement. Je crois que là, on peut dire qu'on est sorti du système, un pays, deux systèmes. C'est fini. Hong Kong, c'est la Chine. Point de démocratie. Alors, c'était ce code électoral, ça modifie les rapports de force, en fait. La résolution, qui contient 9 articles, élargit notamment le comité de sélection du chef de l'exécutif de Hong Kong, qui passe à 1500 membres, dont 300 fidèles à Pékin. Ça augmente leur nombre et donc leur poids. Ça augmente aussi le nombre de sièges, qui passe de 70 à 90 dans ce conseil législatif. Et ils vont surtout, ils ont introduit quelque chose qu'ils avaient déjà introduit à Singapour. Ce comité va pouvoir éliminer les candidats jugés non patriotes. Alors, le terme non patriote est tellement flou qu'en fait, ça leur permet de virer tous ceux qui sont pro-démocratie. Parce que non patriote, c'est ceux qui... c'est pas... parce que, en fait, les indépendantistes, notamment hongkongais, c'est difficile de trouver plus patriote qu'eux. Hein, c'est vraiment du nationalisme. Ils défendent leur île, tout ça. Non, mais le côté non-patriote, c'est non-patriote avec la Chine. Donc, si vous ne défendez pas le système totalitaire chinois, vous êtes non-patriote. Et du coup, ça exclura d'office quasiment tous les défenseurs de la démocratie. Donc, voilà, je pense que c'est la fin. Bien évidemment, pas beaucoup de réactions. La France ne va pas interdire les produits chinois de rentrer en France. On va juste regarder et dire ça y est, la démocratie hongkongaise est morte.
Écoute, je te propose de terminer, puisqu'il nous reste peut-être 3 minutes, juste pour commenter un petit peu cette affaire OVH, cet incendie absolument incroyable dans ce bâtiment de 5 étages qui a touché une partie des installations d'OVH. Ah,
le plus gros data center, hein, je crois.
Oui, alors OVH, c'est 3,2% des sites internet en France. Et. C'est tu crois que c'est beaucoup plus?
Ah oui, largement. C'est les deux tiers, je crois.
Alors, en tout cas, ça touche aussi l'international, puisqu'il y a beaucoup de sites qui sont tombés en France. On pourrait en citer quelques-uns.
3,6 millions de sites sont tombés.
Ouais, c'est exactement ça. On a des sites qui sont tombés jusqu'en Allemagne, enfin un peu de partout, puisque c'est ça reste quand même aussi multinational. Alors j'ai appris que le site comité d'entreprise de Peugeot Sochaux avait été tombé, mais on pourrait aussi parler celui de l'UPR.
L'UPR, ça nous fait plaisir, ouais. Je suis désolé.
J'ai même appris que le nouveau site dont je ne donnerai pas le nom de Michel Onfray était tombé aussi.
Ah, c'est bien.
On a pas mal de sites de rugby, de clubs de rugby locaux, des villes comme la ville de Vichy, le stade de Caen. Il y a des services publics, le site démarche simplifiée, le machin anti-discrimination du défenseur des droits, l'aéroport de Strasbourg, donc ça a touché tout un tas de gens. Et le vrai problème aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a des sites, mais il y a aussi le cloud, c'est-à-dire il y a deux choses qui sont
touchées. Le nuage.
Le fameux nuage, c'est-à-dire là où vous allez stocker vos affaires, et puis il y a votre site. Et le problème, c'est qu'un certain nombre des clients d'OVH n'avaient pas fait de sauvegarde ailleurs. Vous savez, il est souvent recommandé d'avoir une sauvegarde chez un autre client. Et loin. Comme ça, si ça prend feu dans un territoire, vous êtes sûr de garder vos choses. Mais en fait, ça se fait pas parce que beaucoup d'entreprises estiment qu'à un moment, puisque vous avez filé vos trucs chez OVH en cloud, ou si vous mettez votre gestion de votre site internet, vous n'avez plus rien à faire. Tout se passe bien. Là, c'est la preuve quand même qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Tout un historique par exemple, et qui aujourd'hui n'arrive pas à se relever.
Ça va le faire petit à petit.
Ça va le faire, bien évidemment. OVH va tout mettre tous les moyens. Ils annoncent déjà une reprise dès le 15 mars, un certain nombre de choses. La question maintenant de l'enquête, c'est de savoir pourquoi ça a pris feu. Est-ce que les systèmes en interne ont bien fonctionné? Est-ce que des clients vont se retourner contre OVH pour avoir des dommagements? Parce que ça risque de faire mal. En tout cas, c'est quand même ces centres comme ça assez impressionnants quand ça prend feu, quand ça a un problème, parce que ça perturbe un peu quand même et une économie et des systèmes mis en place, des systèmes publics et une économie. Il y a des gens qui ont perdu leur site de e-commerce.
Mais Radio Canu n'était pas sur OVH.
Non, donc, mais tout le monde n'a pas été évidemment touché. On va vous laisser là pour ce soir. On vous laisse avec les restes de Radio Canu. Vous savez, nous sommes tout pleins quand même à faire des émissions. Vous préparez aussi des bandes continues. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. En tout cas, on l'espère. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.